À ma gauche, il y a quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup.
C'est gentil.
Je dis ça, j'ai peut-être peur de me faire virer. Dans un sens, c'est mon patron, dans l'autre sens, c'est un ami.
C'est notre invité, en tout cas, ce
soir. C'est notre invité ce
ouais.
soir, Geoffrey Lapeyre.
Bonsoir tout le monde, merci de me recevoir.
Voilà, donc le directeur du parc Babyland à Miland.
Voilà, c'est ça, ouais, exactement. C'est mon titre, c'est ça, mais c'est surtout une belle aventure, le parc Babyland.
Ouais. C'est une très belle aventure, je suis content d'en faire partie, en quelque sorte, dans un sens. On va te poser plein de petites questions, on va parler de la saison au parc, on va parler de plein de choses, on va parler d'Halloween qui approche.
Oui, avec plaisir.
Tu vas nous parler de l'histoire du parc aussi. Hein.
Exactement.
Voir un petit peu, voilà. On va parler peut-être l'année prochaine, le coin du lac.
Avec plaisir.
Qui est un très beau projet.
Toutes nos activités.
Tout ce que tu fais.
Exactement, je suis prêt à recevoir tes questions, je suis préparé, c'est bon.
On va commencer dans un instant. Alors, nous avons à nos côtés Geoffrey.
Rebonsoir.
Voilà, rebonsoir. Je le redis, le directeur du parc Babyland.
C'est ça.
Situé à Saint-Pierre-du-Perret, qui commence à prendre un peu d'ampleur au-delà de la région, j'ai l'impression.
Ouais, exactement.
On est au-delà de l'île de France maintenant.
Oui, le Loiret et puis pas mal d'autres départements. Et c'est surtout l'Île-de-France, Paris Sud et puis même Paris Intramuros avec l'ensemble des centres de loisirs que nous recevons chaque année. Donc c'est vrai qu'en 13 ans d'existence, non, nous on a repris depuis 13 ans, c'est un parc qui existait déjà depuis une belle trentaine d'années, mais on l'a repris, on a recommencé à zéro, et c'est vrai que maintenant, oui, on a une belle notoriété dans l'ensemble de l'Île-de-France et Paris Intramuros.
Ouais. Ouais, à l'époque, quand il y a eu le rachat du parc, il y a eu la tempête de 99.
Exactement.
Qui a tout ravagé.
C'est ça, voilà. En fait, faut
imaginer. C'était pire qu'Aurore, hein, faut le dire.
Ah oui, c'était...
Pour l'avoir vécu, effectivement, mon Théo. Enfin, ouais. Les jeunes, là, ils ne l'ont pas vécu, mais.
non,
c'était.
Je l'ai. Non,
impressionnant.
Je l'ai
donc, j'imagine que, effectivement, dans les bois.
Je l'ai vécu dans ton ventre.
C'était grave.
La
parce
particularité
que...
du parc, c'est quand même d'être boisé, quoi.
C'est ça, mais en fait c'était tout pour nous faire pour nous démoraliser et du coup de nous faire baisser les bras, mais on a c'est vrai qu'en famille on a un trait de caractère, c'est la force dans le travail, et on se laisse difficilement abattre par les obstacles, et alors moi je vous parle de ça, j'étais petit, j'avais 9 ans quand la tempête est tombée, mais mon père venait d'acheter le terrain en 1997, hein, donc ça faisait à peine 2 ans.
Ouais.
Et donc je suis issu de grandes familles de forains du côté de ma mère et de mon père. Et à cette époque-là, à l'époque où la tempête est tombée, donc on était aux alentours de novembre de mémoire.
Je crois que c'était même en décembre.
Novembre-décembre,
ouais,
c'est ça.
C'était en fin d'année. Ouais.
C'était l'hiver puisque nous on avait une fête foraine à Rennes avec le grand toboggan, le slalom, qui est d'ailleurs une attraction sur le parc.
Ouais.
Et on montait ce manège-là sur la foire de Rennes, et donc la tempête nous a réveillés, et avec mon père et ma mère et l'ensemble de notre équipe à l'époque, on est monté sur le toboggan pour retenir les bâches, pour éviter que ça s'envole. C'était catastrophique, et le parc n'existait pas encore, il n'était pas ouvert, on l'avait déjà acheté, mais il n'était pas ouvert au public. Et lorsqu'on a été constater les dégâts au parc, en revenant de la fête foraine de Rennes, c'était catastrophique, il y avait tous les arbres par terre, il y avait toutes les structures qui restaient, il n'y avait plus de tuiles, il n'y avait plus rien du tout. Et j'entends encore mon père m'en parler quand on est en train de dîner, puisque voilà, c'est des choses qui restent ancrées dans notre esprit.
Bien sûr.
Mon père a relevé ses manches et a acheté le matériel pour déblayer, un bulldozer, une pelleteuse. Et donc ma mère a entrepris des travaux pendant que mon père continuait à voyager partout en France.
Oui, parce
avec
que
son
vous faisiez encore, c'était des foires, des.
C'est ça, exactement. Et du coup, ben voilà, on a déblayé, on a retiré les arbres, on a tout nettoyé pour continuer le projet. C'est pas cette tempête qui nous a arrêtés. Et donc on est content aujourd'hui d'avoir pu surmonter cette tempête, puisque bon bah là on vient de s'en faire une autre, la tempête Aurore.
Ouais.
Et de nouveau quelques arbres au sol. On a malheureusement un arbre qui est tombé sur un manège que Théo adore.
Ouais, je suis un grand habitué maintenant. Hein.
Voilà.
Il n'y a pas un jour où je ne suis pas cité au Big Apple.
C'est ça. Donc le Big Apple, c'est pour raconter un petit peu. Le manège, c'est un petit coaster familial où tout le monde peut monter, les enfants, les adultes. Et malheureusement, un gros arbre est tombé dessus. Voilà, donc j'ai été appelé le matin très tôt, c'était jeudi matin vers 7h du matin par mon père, en me disant, là, si on veut avoir une chance d'ouvrir samedi, il faut que tu rappelles toute l'équipe pour venir travailler jeudi et vendredi Sortir les tronçonneuses, sortir les souffleuses, sortir les débroussailleuses, et de l'huile de coude, et tout ramasser, tout déblayer les routes, tronçonner les arbres qui sont tombés.
Ouais, sécuriser justement la zone endommagée, en fait, aussi.
Et exactement, tout à fait. Ouais. Donc l'arbre est tombé, malheureusement le manège il est HS jusqu'à mon avis, jusqu'à l'année prochaine,
oui.
Puisque là il faut faire passer un expert. Ensuite il faut recommander les pièces qui sont défectueuses, il faut démonter ce qui est cassé, remonter... assurer la sécurité par le biais des techniciens italiens, refaire passer un bureau d'études. Donc il y a quand même différentes étapes à faire avant de pouvoir réouvrir l'attraction en toute sécurité. Donc malheureusement...
Ouais, parce que c'est un manège, quoi, c'est pas n'importe quoi. Fin...
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a toute une sécurité derrière.
Bien sûr.
C'est ça, c'est un mécano géant, sauf qu'on positionne quand même des êtres humains à l'intérieur de la nacelle.
Oui, donc...
C'est ça, à tout moment.
Donc il faut quand même être vigilant. On a ce savoir-faire, mais on veut pas aller trop vite. Donc voilà, on le laisse fermer, on le réouvrira qu'en 2022.
Oui, donc du travail pour cet hiver, sachant voilà. Que le parc, de toute façon... Ah, on n'est pas ouvert au public hein, pendant l'hiver, mais il tourne, puisqu'il y a quand même du monde qui entretient.
Il y a toujours les petites mains à l'intérieur.
Bien sûr.
Exactement, on est 6 CDI sur le parc, bientôt 8, puisque j'ai la chance d'avoir rencontré 2 collaborateurs qui ont fait leurs preuves et qui travaillent même très très bien. Je peux les citer, hein. Le premier s'appelle Flavien, qui est notre chargé de communication au parc, qui n'a pas encore signé son CDI et donc qui va le signer... Pas encore, non. Il va le signer, donc... Oui, on est un peu dur hein, quand même hein, sur...
on prend le temps de bien faire les choses.
Voilà, sur la signature des CDI, on analyse beaucoup les personnes puisque, encore une fois, le parc, c'est plus qu'une simple histoire entrepreneuriale, hein, c'est l'histoire d'une vie. On consacre toute notre vie dans cette activité. Donc, c'est sûr que les collaborateurs qui décident de faire carrière avec nous, on les sélectionne scrupuleusement. Et donc, encore une fois, Flavien est extraordinaire. Il fait un travail remarquable. Vanessa, qui signera son CDI également en février, a fait un travail remarquable cet été puisque c'est la chef des opérateurs. Donc, c'est un peu ta responsable, Théo, aussi.
Il n'arrête pas de m'en parler.
C'est vrai ?
Oui.
Mais ça, mais encore mieux au Big Apple !
Non, mais... Enfin, il m'en parle souvent, mais en bon terme. Enfin, voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de dynamique et qui s'entend avec toute l'équipe et qui...
Tout à fait, tout à fait. J'ai rencontré Vanessa au début de la saison 2021. Elle a déposé sa candidature au parc justement pour prendre la responsabilité de l'ensemble des opérateurs, donc formation à la sécurité, gestion des plannings et puis recrutement... des futurs opérateurs et c'est vrai qu'elle a fait un travail remarquable puisqu'en plus de ça elle est polyvalente et dans notre métier il faut être polyvalent,
ouais.
Quand le parc est fermé encore une fois on est en bleu de travail et donc on travaille sur le site pour entretenir les espaces verts, entretenir les attractions, construire les nouveautés, les bâtiments, donc il y a beaucoup de cordes à son arc qu'on doit posséder pour travailler avec nous, hein, tout simplement.
Quand t'as Babiante, t'es pas juste opérateur, t'es pas juste chargé de com, t'es pas juste directeur, tu fais tout.
Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, il faut savoir un peu tout gérer. Il y a de la plomberie, il y a de la maçonnerie, il y a de la relation client, il y a pareil l'entretien technique, donc le graissage des attractions. Donc je suis conscient que tout le monde ne possède pas toutes les compétences. Néanmoins, il faut être capable d'être curieux. Et à partir du moment où on est curieux, et bien après on fait des formations et puis on y arrive.
Bah c'est ça. On apprend quand on est passionné. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que...
Tout à fait.
C'est des passionnés qui travaillent avec
oui.
toi.
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. L'ensemble des personnes qui sont au parc et qui travaillent avec moi, je pense que finalement, ils ont été un peu piqués par l'histoire. Et moi, j'en suis ravi de les voir travailler. C'est d'ailleurs mon énergie le matin quand je me réveille. C'est de voir mon équipe justement œuvrer pour la cause du parc. Parce qu'ils le font avec cœur, ils le font avec passion, et voilà, c'est pas du travail répétitif, ils réfléchissent, et puis le soir, on a tendance à toujours faire un petit point, un petit compte-rendu de ce qu'on a fait pour améliorer le lendemain les choses, ou voilà, trouver des bonnes idées. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de satisfaire la clientèle, donc c'est offrir du plaisir aux gens, et c'est intéressant que tout le monde réfléchisse dans ce sens-là.
C'est ça, puis toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, j'imagine.
Exactement. Hein? Tout à fait.
C'est une belle histoire, Babylon, non ? C'est familial et même c'est beau.
Ouais, ben toi, Théo, tu travailles au parc depuis un petit moment maintenant.
C'est la fin de la deuxième année. Hein.
Ouais, exactement.
C'est vrai que quand je suis arrivé l'année dernière, c'était un peu un rêve de gamin, quoi. Tu sais, quand t'es gamin, tu rêves de bosser à Disney ou quoi. Bon, là, c'est pas Disney.
Non, c'est
encore
pas
mieux.
Disney.
mais c'est limite mieux parce que c'est plus petit, tu vois, c'est plus familial.
C'est ce que exactement. J'allais dire, c'est plus bienveillant, j'imagine.
Puis le cadre en pleine forêt.
Voilà, oui. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on est une petite famille. Hein. Bon, petite, on finit par être quand même... alors, le chiffre me surprend à chaque fois. On est 85 quand même cette année à
en
travailler au
saison.
Parc. en pleine saison.
Ouais.
Donc on n'est pas 85 dans une journée, c'est sûr.
Oui.
Mais il faut un minimum de 40 personnes pour ouvrir. Et donc il y a des rotations entre les équipes. Et bah, au final, sur le registre du personnel, on a enregistré 85 personnes jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
Donc, c'est bien aussi pour l'économie très bien, ouais. du secteur aussi. Ça fait travailler
c'est
les gens,
ça.
Les jeunes.
Exactement.
Parce que là, tu cherches encore des saisonniers là, pour finir la saison ou pas ?
Alors, plus maintenant. On a retrouvé des saisonniers la semaine dernière, où il y a 15 jours, où on a mis en œuvre une grosse phase de recrutement. On a recruté 15 personnes justement pour pouvoir faire les vacances de Halloween.
Oui.
Mais ça y est, les recrutements sont bouclés. Donc pour ceux qui nous écoutent, malheureusement, ça sera que
pour
2022 maintenant.
Ouais.
Oui, il y a eu de nouveaux opérateurs, de nouvelles personnes, parce qu'il y en a qui reprennent des cours, il y en a qui ont leurs études.
Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent d'été, mais du coup, en septembre... saisonnier,
quoi.
Voilà, c'est ça. En fait, on adapte les plannings, tout simplement. Donc à partir de là, on est assez souple. Hein. On n'est pas sévère vis-à-vis de ça, et on attribue du coup des plannings aux disponibilités des jeunes. Et puis on a conscience qu'il y en a qui effectivement font des études de droit ou d'économie ou peu importe, en BTS à Lieusaint, il y en a qui sont principalement de la région. Et donc on se voit dans le bureau, et puis ils m'indiquent leur disponibilité, et ensuite c'est un gros mot croisé où j'ai les disponibilités de tout le monde, puis je mets ça sur un tableur Excel. Et l'idée, c'est de répondre aux intérêts du parc, c'est-à-dire il faut un minimum de 13 opérateurs pour les 13 manèges qui nécessitent des opérateurs. Ensuite, il faut 3 surveillants sur le terrain. Mmh. En billetterie, il faut 5 personnes minimum, billetterie boutique, puisque maintenant, on est une boutique avec des objets dérivés.
Il y a la restauration.
La restauration, il faut un minimum de 15 personnes. Donc finalement, ça chiffre. Et puis, on finit par, je vous dis, être une quarantaine sur le terrain pour offrir du plaisir aux gens quand on est ouvert. Hein.
Puis il y a l'entretien aussi.
Et puis il y a l'entretien.
Il y a tellement de monde au final.
Il y a l'entretien, c'est ça. Plus la construction.
Oui.
Donc là, on s'envoie un bel investissement. On en parlera peut-être après pour pas tout mélanger.
Ouais. Oui.
On s'envoie un très très bel investissement. Et puis on améliore également l'espace sanitaire avec un bâtiment
très attendu.
Très très attendu, parce que c'est vrai que les sanitaires sont un petit peu anciens. Il faut les remettre au goût du jour. Mais voilà, il faut qu'encore une fois, les personnes qui restent à l'année en CDI puissent l'hiver contribuer à l'évolution du parc. Hein.
D'où la polyvalence. Parce
d'où la polyvalence, c'est le terme.
Les espaces verts, ça peut être repeindre les figurines, je pense, ou les
réparer avec de la résine polyester et du gel coat. Il y a plein de petites choses.
Il faut aider
à faire
pour dépanner les manèges qui, des fois, sont bloqués. Enfin, il y a plein de choses.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je t'ai déjà vu pousser le Big Apple quand tu l'avais bloqué parce que tu avais mis trop de freins.
Ouais, c'est possible, quelquefois, oui.
Hein, donc ça donne quoi ? C'est Théo ça, pour Vanessa, ça, ça, Théo ça pour Vanessa.
Alors, Vanessa, après, faut que après, tu viennes, c'est bloqué dans la pomme.
Et après, c'est Vanessa pour Geoffrey.
Ouais, comme au bûche. Ou... Non, mais je pensais, par exemple, le petit safari où j'ai déjà idée. Fin...
Oui.
Il faut être polyvalent.
C'est ça, le safari.
Mais
oui,
c'est bien parce que t'apprends des choses, t'apprends un peu la technique du truc.
C'est ça. Ouais, exactement. Ben pour les curieux, c'est vachement intéressant. C'est vrai que toutes les personnes, bon, qui veulent nous donner un coup de main, parce que bon, il n'y a pas toujours la même fréquentation en termes de clients. On peut faire des journées plus faibles que d'autres. Hein. On peut passer 200, 300, 400 personnes quand il pleut, et pousser jusqua 3000-3500 quand il fait beau, on l'a vu
cet été, hein.
On l'a vu cet été, tout à fait. Donc quand il fait moche et que on a 350 visiteurs sur le site et qu'on est une quarantaine ou une cinquantaine de saisonniers,
il faut les occuper.
Ah oui. C'est ça. Et moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit en tant que tête pensante, justement, dans une journée d'exploitation, il faut que j'occupe tous mes employés.
Bien sûr.
Alors, du coup, je sectorise avec des responsables, bien entendu, mais il est vrai que des opérateurs qui veulent contribuer au dépannage d'une attraction, eh bien souvent, viennent avec moi et mon père pendant 2 heures ou 3 heures pour nous aider à dépanner une attraction. Hein, c'est déjà arrivé. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, ça leur permet aussi de découvrir
C'est bien, c'est intéressant, tu apprends des choses, tu découvres comment ça marche.
C'est ça. Voilà, changer un moteur ou des frotteurs ou des contacts divers et variés. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
On va parler de la saison 2021 au parc.
Ouais.
Donc là, allez, qui s'achève dans 2 semaines.
Bah là, tu vas pouvoir faire un petit débrief sur la saison puisqu'elle se termine.
Bien sûr.
Est-ce que après cette période difficile, est-ce que les gens sont revenus ? Est-ce que Est-ce qu'ils ont eu plaisir à revoir, à revenir, à voir le parc ?
Alors on a constaté des comportements complètement différents de ce qu'on avait connu auparavant. Donc en fait, c'est très difficile d'anticiper la fréquentation au quotidien. Indéniablement, on dépend de la météo, ça c'est sûr. Donc quand il pleut, sait qu'on n'aura pas grand monde. Mais la période sanitaire actuelle a fait que les clients, on avait plusieurs écoles, principalement deux groupes de comportements. Les premiers, on va dire, qui étaient dans une optique un peu plus de rébellion, c'est-à-dire qu'ils voulaient absolument ne pas entendre parler du vaccin et puis du problème finalement du virus. Donc voilà, et donc c'était des clients fidèles, et puis aujourd'hui, bon, on les remercie, parce que si le parc se tient bien aujourd'hui, c'est grâce quand même aux clients qui sont venus cette année. Mais on n'a pas cartonné, c'est pas une année où on a cartonné. D'ailleurs, les confrères qui possèdent des parcs en France m'ont dit la même chose, hein. C'est vraiment pas l'année où on a cartonné, et tout le monde a restreint un peu les investissements. Et donc, c'est vrai que l'arrivée de ce pass sanitaire au 21 juillet... finalement,
ça a été un coup dur, quoi.
Il a chamboulé vraiment le comportement des clients.
Je suis d'accord. Ouais,
on a eu les deux jours précédant la date de la mise en place du pass sanitaire, on a cartonné. On a fait deux fois.
Ouais, bah oui.
Ouais, c'était incroyable. On a fait deux fois 3000 clients. Donc on s'est pris une rafale de clients. On était même très contents, mais on se disait bien que c'était le pass sanitaire, justement. Ils avaient anticipé la mise en place d'un pass sanitaire, donc ils se sont tous dit « Ok, c'est maintenant ou jamais, quoi. »
Après, la veille, les jours d'avant, on s'y attendait un peu aussi à avoir du monde. Hein.
Ouais, tout à fait.
On savait que les gens viendraient avant le pass sanitaire, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, l'arrivée de ce pass sanitaire a fait que, bien sûr, qu'on a obéi aux règles du gouvernement. Et on a contrôlé le passeport des vaccins de chaque client, et on a eu une montée justement de tension de certains clients qui ne comprenaient pas qu'on contrôle justement les passes sanitaires, parce que je pense que c'est pas rentré tout de suite dans les mœurs. Les gens ont pris bien une semaine, 15 jours avant de comprendre que effectivement c'était obligatoire. Et nous, alors j'ai pas très bien vécu cette période-là sur les réseaux sociaux.
C'était un peu virulent.
Tout à fait. Donc j'ai pas mal partagé mon désarroi sur les réseaux sociaux, justement parce que j'étais pas du tout d'accord avec le gouvernement du fait d'être au front. En gros, il fallait que j'explique aux clients que je ne pouvais pas les recevoir parce qu'ils n'étaient pas vaccinés totalement. Donc c'est-à-dire les deux doses de vaccin avec un délai de 7 jours. Après la deuxième dose. Donc j'avais affaire à des clients, parce que quand on brasse des flux de visiteurs, on a toujours un pourcentage de clients, même s'ils sont de l'ordre de 10 ou 20 clients, qui dépendent d'une catégorie. Donc en gros, on avait des clients qui avaient les deux vaccins, mais une cliente qui avait fait son vaccin hier, son deuxième vaccin hier, et donc ne pouvait pas accéder au parc parce qu'il faut un délai de 7 jours, et c'est la loi. Donc ça signifie que nous, on devait faire la police et expliquer à cette dame « Non, désolé, on ne peut pas vous autoriser l'accès au parc parce qu'il faut encore attendre 6 jours. » C'est très très compliqué de devoir dire ça à un client. Déjà d'une, parce qu'on en a besoin pour la bonne santé financière de l'entreprise, et qu'en plus de ça, c'est notre modèle économique. C'est-à-dire il faut recevoir des clients et satisfaire ces clients-là sur le parc. Bon, d'ores et déjà, ils ne sont même pas rentrés dans le parc qu'on leur met une contrariété dans l'esprit. Moi, personnellement, j'ai mal vécu. Mes équipes ont très mal vécu cette période-là. Ça a duré bien 15 jours, hein, du 21 juillet jusqu'à première semaine du mois d'août, où on a lâché. Il y avait très peu de monde sur le parc. On a eu beaucoup de refus. On avait des vigiles à l'entrée du parc, justement, pour calmer un peu les ardeurs. Et certains clients ont été jusqu'à nous insulter de macronistes ou de collabos ou des petites choses comme ça. Donc, voilà, il faut tenir quand même... l'ensemble de ses équipes moralement, les soutenir. Donc nous, on était principalement la billetterie, justement, pour discuter avec la clientèle, et on a été agréablement surpris de voir que finalement tout le monde a compris l'impact justement de ce pass sanitaire et les bonnes conséquences que ça peut avoir. Et à partir de la première semaine du mois d'août, la plupart des gens étaient vaccinés ou alors se faisaient tester pour pouvoir venir au parc.
Parce que tu avais mis à disposition un barnum sur le parking, je crois.
Exactement, c'était une solution qu'on a tranchée pour cette solution, c'est-à-dire de faire venir des infirmières libérales pour pouvoir effectuer un test à l'entrée du parc, de façon à pas dire un non définitif aux clients.
C'est ça.
Et leur dire, voilà, vous n'êtes pas vaccinés, on le comprend, vous avez fait une heure de route pour venir au parc, vous avez les enfants, vous avez la glacière, vous avez la poussette, vous avez tout. Bon, on vous invite à faire un test PCR sous le barnum à 5 mètres du parc.
Ça prend que 15 minutes.
Voilà, antigénique.
Antigénique, oui, c'est ça.
Oh, c'est pareil.
Et donc après, voilà, vous avez un passeport sanitaire qui vous sera délivré, valable pendant 72 heures pour venir au parc. Et ça a calmé beaucoup de choses. Et nous, ça nous a permis justement de continuer à travailler dans les meilleures conditions. Hein.
Ouais.
Mais c'était une période assez compliquée. La plupart des propriétaires de parcs aujourd'hui le disent. On a fait face, le mois d'août a été bon, le mois de juillet un peu plus compliqué, mais finalement dans l'ensemble, on s'habitue pour la bonne cause. Hein.
Donc plutôt, malgré ce passeport sanitaire, plutôt quand même positif, les gens avaient plaisir à revenir quand même.
Ils avaient plaisir à revenir, les fidèles, il y a des gens fidèles maintenant qui viennent d'année en année pour découvrir un peu les nouveautés. Et on a plaisir de les recevoir sur le parc et bien sûr ils font l'effort pour pouvoir profiter des activités et puis nous rencontrer sur le site. Hein. Donc ça fait chaud au cœur et encore une fois c'est un petit peu notre moteur finalement de revoir ces personnes fidèles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous envoient des messages de soutien et qui font découvrir le parc aux amis, aux voisins, à la famille.
Ouais.
C'est le bouche-à-oreille positif et je pense que c'est la meilleure publicité. Donc c'était un plaisir de les recevoir encore une fois cette année au parc malgré la difficulté. L'année dernière a été également difficile.
Compliqué aussi,
ça fait 2 ans finalement qu'on se bat contre ce virus. Et je pense que nous, notre secteur d'activité fait partie des secteurs les plus touchés puisque le loisir n'est pas un commerce indispensable, comme le dirait le gouvernement.
Ouais.
Alors que pour moi,
essentiel.
Non essentiel. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse. Je j'envisage pas une vie sans loisirs. Mais bon, on peut pas être d'accord avec tout le monde, surtout avec les chefs. Hein. Donc quand les chefs y parlent, souvent on se tait. Et c'est un petit peu ça mon désarroi que j'ai eu cette année. J'ai vraiment détesté être au front, à expliquer à des clients des choses dont j'étais pas forcément d'accord, quoi.
Et puis en plus, les saisons étaient plus courtes, puisque l'année dernière, le confinement est arrivé quasiment au moment d'Halloween.
Exactement.
Mémoire. Et tu as repris, là la réouverture s'est faite plus tard que...
Oui.
Que
finalement, on ouvre normalement à la fin du mois de mars.
Oui,
et,
c'est ça.
Et là, cette année, on a ouvert le 9 juin. Et l'année dernière, on a ouvert autour du 20 juin ou du 21 juin.
Oui, c'était un peu pareil, effectivement. Voilà.
Donc les saisons sont coupées en deux. Le gouvernement nous a octroyé des aides, bien entendu, sinon on aurait, je pense qu'on aurait survécu, mais on aurait survécu avec plus de difficultés. On a eu la chance, pour tout vous dire, on a eu la chance de cartonner en 2019, puisque ça a été notre année la plus performante en termes de visiteurs. On a fait 210 000 visiteurs sur l'ensemble de la saison, et donc la trésorerie de 2019 nous a permis
de tenir
tout l'hiver, de travailler dans les bonnes conditions, d'investir, d'entretenir et de réparer ce qui est cassé et de proposer un parc encore plus joyeux pour l'année suivante. Et justement, de continuer surtout à faire travailler notre équipe en CDI, puisque ça, c'était important pour nous. Encore une fois, on est une petite famille sur le parc. C'est important qu'on travaille tous ensemble et qu'on lutte contre ce virus. Et c'était le chômage partiel n'est pas une solution qu'on a pris. On a préféré travailler ensemble, déjà d'une pour la bonne santé mentale et aussi pour continuer à proposer des belles activités pour les clients pour l'année suivante. Et voilà, 2020 s'est passé de cette façon-là. 2021, on va dire que ça a été un peu similaire à 2020. Au mois d'août, on a très très bien travaillé. On enregistre un peu plus de 100 000 visiteurs sur 2021. Donc voilà, donc maintenant on arrive sur la période de Halloween avec un très très bel événement. Je pense qu'on va en parler un peu après.
Ouais.
Et on ferme le 7 novembre pour la saison 2021 et on prépare d'ores et déjà un des plus gros investissements du parc Babyland.
On en parlera aussi. Hein.
Pour 2022.
Il
voilà,
faut en parler. Il faut en parler.
Il faut en parler, exactement.
Geoffrey, il y a un événement qui arrive là au parc. Que tu fais maintenant tous les ans.
Exactement.
Qui a bien marché l'année dernière, je crois. Il y a eu des très bons retours.
Il y a eu des très bons retours, malgré qu'on a été obligé de décaler avec le confinement.
Pour l'anecdote, je raconte pour Henriette, Dimitri, puis même ceux qui nous écoutent qui ne savent pas, l'année dernière, on devait faire l'événement sur le week-end, je crois.
C'est ça, ouais, exactement.
On a appris, je crois, le mercredi soir qu'on était reconfinés le vendredi, un truc comme ça.
C'est ça.
Et du coup, il y en a, ils ont passé la nuit au parc.
On a bossé.
Pour finir la maison hantée, pour finir tous les trucs, la parade et tout.
Exactement.
Et au final, on a fait le truc sur une journée.
Ouais. Et ça a cartonné.
Ouais. Il y en a même qui se sont proposés comme moi pour venir bosser plus tôt exprès.
Ouais, putain, ouais, t'es un amour. Hein. Heureusement qu'on a des gens comme toi.
Attention, ce que tu me dis, ça me touche.
je vois ça.
Et donc, Halloween revient.
Et Halloween revient, et revient toujours plus grand. Parce que cette année, on ne tient pas Halloween sur un week-end, non, ni sur 3-4 jours, non.
Là,
non.
J'explique, le brief de Geoffrey, c'était, vous voyez, maintenant on voit plus grand, on va faire sur 9 jours, les gars.
On va faire ça sur 9 jours, c'est ça. Et en fait, c'est simplement pour calquer un petit peu la grandeur d'un événement, des plus grands parcs. Hein, parce que maintenant, Halloween, les grands parcs, ils le tiennent sur l'ensemble des vacances. Donc c'est toute une gestion et une organisation qui est impressionnante. Et cette année, justement, j'ai un peu de challenger mes équipes, où je leur ai dit, ça serait pas mal que voilà, maintenant Babyland est ancré dans les grands parcs, hein, dans les parcs à taille moyenne. On rentre dans une belle envergure, donc ça serait intéressant de proposer un bel événement pour Halloween. Et du coup, ben voilà, c'est ce qu'on fait. Donc pendant 9 jours, du 30 octobre au 7 novembre, avec plein d'activités. Pour l'ensemble des clients. Donc, si vous voulez que je vous explique un petit peu les activités, alors
ouais, bon. Tu peux nous donner quelques petites infos sans forcément tout dire. Peut-être, je sais pas si oui, tu veux garder des choses.
Voilà,
un peu...
c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. Hein, justement, je vais rester assez vague. Déjà, dans un premier temps, je travaille en binôme avec un ami qui m'est cher et qui me bluffe justement d'année en année. C'est Steve Varino, que tu connais très bien. C'est un garçon justement que j'apprécie parce que il est rempli de secrets. Il a déjà une force de travail et de créativité assez impressionnante et il arrive à mettre en œuvre ce qui se passe dans son esprit et ça je trouve ça remarquable. Je te salue mon ami si tu nous écoutes. C'est lui qui s'occupe de la mise en place de la maison hantée. Et justement, je vais rien vous dire sur la maison hantée parce que sinon c'est pas une surprise. Mais il y a des choses horrifiques qui s'y passent avec des fantômes. Faut venir voir.
Et j'ai entendu parler de certaines choses. Je sais pas tout, mais j'ai entendu certaines
choses.
Non, mais
gardez la surprise.
Je vais garder. Hein, je vais rien dire, mais.
Voilà, oui, non, faut surtout pas gâcher le surprise à la clientèle. Mais au-delà de la maison hantée, l'ensemble du parc est thématisé. Il y a un atelier maquillage pour les enfants. Il y a une distribution de bonbons aux attractions. L'ensemble des opérateurs, bien sûr, sera déguisé. Et il y a un concours du plus beau déguisement, justement, à la fin de la parade avec la mascotte, où on va élire, justement, le déguisement le plus terrifiant parmi les candidats et ils pourront repartir donc avec un pack famille de 4 invitations et puis bien sûr des surprises. Voilà, donc il y a beaucoup d'animations pendant cette période là donc je vous invite justement à venir découvrir le parc Babyland si vous ne le connaissez pas à travers l'événement de Halloween 2021.
Bon, déjà si vous connaissez pas Babyland, c'est une honte. Faut le dire, c'est
pas une honte parce qu'ils vont. Il faut le découvrir.
C'est un beau parc.
On le dit beaucoup parce que voilà, c'est Babyland, parce que c'est nos amis, c'est nos partenaires. Vous entendez la pub. Maintenant, allez-y, c'est bon.
C'est ça, exactement. Ou alors découvrez au moins l'événement de l'année dernière à travers les vidéos sur la chaîne YouTube du parc ou sur le site internet. Hein. Vous pouvez aussi au www.parcbabyland.fr.
Et dites-vous que ce sera encore mieux cette année. Et alors, je crois que pour décorer, j'ai entendu des petites choses. Donc, il y a des citrouilles, hein, bien sûr. Dans le parc.
Halloween sans
et
citrouilles.
Et qu'est-ce qui va se passer avec ces citrouilles à la fermeture du parc? Il n'y a pas quelque chose de prévu?
Eh bien, justement, les citrouilles, je pense qu'on va rester, dans le traditionnel, j'ai envie de dire. Mais je ne sais pas ce que tu as entendu.
Pas pour les animaux.
Alors, voilà. En fait, il y a trois choses possibles. On a œuvré avec la cueillette de Torfou pour les récupérer, ces citrouilles. Donc, j'ai été avec Flavien, notre chargé de com du parc, pour les récupérer. Et donc, ça a été assez marrant parce que moi, je pensais qu'on allait juste les charger ou bien quelqu'un allait nous les charger. Non, pas du tout. On est arrivé là-bas à la cueillette et il a fallu les cueillir, c'est ça.
C'est ça, tu vas dans une cueillette, c'est pour
c'est
cueillir.
C'est le principe, ouais.
Mais moi, je m'y attendais
pas du tout.
C'est le
principe, normalement.
Donc, on a pris 150 citrouilles avec une brouette et mon ami Flavien, Ah, je peux te dire qu'il m'a regardé à un moment donné, il m'a dit « Mais dans quel bourbier tu m'emmènes, Geoffrey, encore là ?» Il m'a fait rire. Et donc, on s'est retrouvés avec des brouettes à ramasser nos citrouilles. On a fait des stories, d'ailleurs, pour partager cette aventure avec les autres. Et donc, on a chargé les 150 citrouilles dans deux camions, les a ramenées au parc. Et donc, la cueillette de Torfou, ils sont très, très gentils, nous ont conseillé de, justement, les casser et les mettre dans la forêt pour les animaux sauvages, pour éviter de les gâcher. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième, c'est de les offrir à la clientèle du dernier jour, donc du 7 novembre, du dimanche 7 novembre. Pour que les clients puissent ramener les citrouilles. Donc
elles sont comestibles alors.
Elles sont comestibles, tout à fait.
Ouais, après, tu peux en faire de la soupe, tu peux.
Voilà.
J'en réserve ça. Une.
tu peux, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu voilà, le bazar de tous les clients qui sautent sur les citrouilles les 10 dernières minutes. On va passer avec un micro et puis on va dire allez-y, vous pouvez prendre les citrouilles.
Imagine,
c'est le dernier jour.
Imagine, tu as 2500 clients pour 150 citrouilles.
Oui, bon, voilà, il va falloir embaucher des vigiles, je pense. Mais. Et donc la troisième solution, c'est la solution qu'on a prise l'année dernière, c'est ma mère donc, qui travaille activement avec nous dans le parc, qui se propose justement de les cuisiner à travers des soupes ou de la confiture,
tartes,
ou des tartes, et donc elle distribue ça à l'ensemble des équipes après par la suite, donc moi j'ai bien apprécié à la fin de l'année dernière de boire mes petites soupes de citrouille dans mon canapé. Donc j'ai peut-être demandé à ma maman justement de cuisiner un peu pour l'équipe 150 citrouilles. Je pense qu'elle va être occupée pendant un bon mois.
Ça se conserve très bien.
C'est vrai ?
Ouais, ah bah oui, la citrouille, ça se conserve assez longtemps. Donc,
Ça, je sais pas.
Ça se congèle dans... aussi très bien.
Ah oui, voilà, on peut les mettre dans les chambres froides. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais voilà.
Peu importe quelle option vous prendrez, ce sont que des bonnes idées.
Ouais, c'est des bonnes idées. Hein. Même pour les animaux de la forêt, je trouvais ça sympa.
Oui, j'avais entendu parler de ça. Il faut les casser.
Voilà, c'est
et
ça. Alors,
je l'avais lu quelque part, je ne sais plus où. Mais
je ne sais plus, mais ça les protège pour l'hiver. Je crois que ça leur amène plein de vitamines.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est complètement... ça va...
Écologique.
C'est ça, c'est écologique. Et puis ça évite de gâcher, tout simplement.
Aussi, hein. Oui, sinon ça pourrit. À un moment, ça pourrit sur place.
C'est ça. C'est ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire.
Exactement.
Et donc, les laisser en libre service pour la clientèle, ça, je ne sais pas. Je sais que Nigloland, on choisit cette option. Maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être faudrait essayer, j'en sais rien du tout. À voir.
Bah, effectivement, tu risques d'avoir...
Fais venir la gendarmerie.
Des bagarres, des choses comme ça. Ou alors sur réservation.
Ou alors sur... Ouais, bah alors là, c'est à gérer, c'est un enfer.
Ouais, c'est vrai.
On va mettre les prénoms sur les citrouilles.
Alors, la citrouille de Théo.
Pourtant, nous, quand on a été à Babylone avec la famille, on a piqué des citrouilles là-bas.
Ah, t'as piqué des citrouilles.
T'oses le dire, mais tu l'as rangé.
Non, mais il ose le dire face au directeur. Hein,
non, mais il dit, t'as piqué. Bah, ça se voit quand tu piques une citrouille.
Et alors,
quoi.
Comment t'as réussi à passer la billetterie avec une citrouille?
On sait pas.
En fait, je l'ai caché sous mon t-shirt, j'ai fait genre que j'étais enceinte.
Eh bah, bien joué. Bon,
je suis enceinte de 9 mois, les gars.
Parce que mon grand-père, il est en fauteuil roulant aussi, donc je pense.
Ah, il l'a planqué en dessous.
Ok, mais tu fais bien de me le dire, comme ça je vais renforcer la sécurité à la billetterie pour éviter de se faire tirer.
Je vais embaucher 10 vigiles.
C'est ça, exactement.
T'as pas peur, toi, hein ?
Non.
Ouais, pourtant on est vigilant, hein. Voler une citrouille.
Pas assez.
Ouais, visiblement, ouais, pas assez. Ouais, il a dû le cacher, à mon avis, sur son fauteuil, peut-être, et passer discrètement.
Hop là, ni vu ni connu.
C'est ça.
Geoffrey.
Oui.
2022.
Oh là là.
J'ai cru entendre parler d'un manège.
Très beau manège. Et
sur le thème
donne
des dinosaures.
Du fil à retordre. Vraiment, il nous donne du fil à retordre celui-là. Mais on tient ce projet avec notre cœur. Et justement, on sort complètement de notre zone de confort. Tu veux en savoir plus ?
Ah oui,
c'est ton moment.
Ok, on est.
Il faut que tu nous vendes l'année prochaine, non ?
Ah bah, je vais te la vendre, mais je vais te la vendre dans la plus simple façon possible, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment vécu et la sélection, la décision qu'on a prise sur ce type d'investissement. Donc pour tout vous dire, c'est une grande tour de 40 mètres qui est une swing tower. En fait, finalement, c'est un gros voltigeur qui monte à 40 mètres de haut avec un beau drapeau et on l'a entièrement thématisé sur l'univers des dinosaures. C'est un projet que nous avons vu en Autriche dans un parc qui s'appelle Fantasiana. On voyage pas mal l'hiver quand le parc est fermé pour justement sélectionner nos futurs investissements. Et donc, on a rencontré ce projet, ce manège qui existe dans le parc de Fantasiana, entièrement thématisé sur le monde des dinosaures. Et on a été complètement séduit avec mon père. On a justement rencontré le patron du parc pour en savoir un peu plus sur ce manège-là. Et c'est vrai que c'est un manège phare dans le parc puisque les dinosaures, c'est à la mode, c'est intemporel. Oui. Tout le monde a connu et est curieux de cette période de préhistorique et du monde des dinosaures. Et donc, on s'est dit, dans le parc, on n'a pas encore de manège thématisé sur ce monde-là. Pourquoi pas insérer un manège à sensations, justement, autour du monde des dinosaures. Alors, on a été séduit tout de suite et on s'est dit, bon, comment on fait ? On a contacté nos constructeurs d'attractions, donc principalement le groupe SBF Visa Group qui est en Italie, et on leur a demandé si justement ils fabriquaient cette tour-là, donc cette swing tower de 40 mètres. Et ils nous ont dit, effectivement, ils l'ont au catalogue, mais il faut adapter quelques petites choses dessus pour rendre le projet identique à ce qu'on a vu en Autriche. Et donc ils ont été d'accord pour nous la construire. Donc on parle d'un projet qui est autour de 460 000 euros pour l'attraction. Ouh. Mais on parle pas du tout, c'est un très gros budget. Encore une fois, c'est le plus gros projet que le parc Babylande tient jusqu'à aujourd'hui. Juste avant, c'était la Grande Roue. Grande Roue qui est un monstre, hein. Maintenant ça fait 25 mètres de haut, un demi-million d'euros justement pour la financer. On s'est appuyé sur la fréquentation toujours en pleine évolution, et on s'est dit qu'une Grande Roue allait être un phare dans le parc, et puis on s'est pas raté. Maintenant elle existe depuis 2016 de mémoire, ou 2015, et c'est vrai que c'est un phare. Mais pour en revenir à la tour, ce projet-là sort un petit peu de nos habitudes puisque c'est le tout premier manège entièrement thématisé. Auparavant, on avait tendance, justement par problématique de trésorerie, d'acheter une attraction et de la monter assez simplement dans le parc. C'est-à-dire on mettait un minimum de décoration, on mettait le génie civil qu'il fallait pour assurer la sécurité de l'attraction, et ensuite on l'ouvrait à la clientèle. Là, la réflexion est tout autre, puisque on n'ouvrira pas l'attraction tant que l'univers décoratif ne sera pas ouvert en même temps, construit en même temps que la tour. En fait, finalement, c'est deux chantiers distincts. On a déjà commencé ce chantier, donc pour vous en parler un peu plus, on a un bâtiment de 100 mètres carrés dans lequel on va faire passer la clientèle. La file d'attente va passer donc dans le bâtiment, et on va scénariser une histoire d'un professeur un peu cinglé qui rate son expérience.
Oh, et zut.
Finalement, c'est à cause de lui qu'il y a plein de dinosaures dans la zone. Et donc ça va être scénarisé par un comédien sur un écran géant, avec bien sûr plein de dinosaures dans la salle. Et donc les clients, quand ils auront terminé ce spectacle-là, pourront rentrer dans l'enceinte de l'attraction pour faire l'attraction.
Ah, c'est deux attractions en une, en fait.
Voilà, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va occuper la clientèle pendant la file d'attente.
Ouais.
Donc ça, c'est très intéressant quand on a des files d'attente d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Pour les plus longues au parc, c'est parfois une heure ou une heure et demie à la rivière canadienne, quand il y a beaucoup de monde et qu'il fait chaud.
La fameuse
rivière canadienne. Et donc, c'est intéressant justement d'occuper la clientèle quand ils sont en train de patienter. Donc, c'est là où l'investissement a tout son sens,
ouais.
Puisqu'on a des journées où, encore une fois, on fait 2 ou 3 000 visiteurs. Et il faut que l'expérience visiteur soit toujours au top. Et ça commence par occuper les gens dans une file d'attente. Et donc, on a également travaillé avec une entreprise de sonorisation pour équiper l'ensemble de la file d'attente et l'attraction derrière les sièges, pour être plus précis, de façon à pouvoir faire passer une bande son qui est une identité sonore de l'attraction. Donc, c'est-à-dire c'est une bande son que nous avons fait par une entreprise allemande qui s'appelle IMA Score, qui fait d'ailleurs des bandes son pour des grands 8, des plus grands parcs, etc. Donc ils sont spécialistes dans ce domaine. Et donc ils nous ont créé la bande son de l'attraction. Et il y a des synthés, plus le grand 8, la nacelle monte en hauteur, plus les synthés vont aller dans les aigus. Et donc on va accompagner le visiteur dans un véritable univers comme Jurassic Park jusqu'à 40 mètres de haut.
Oh, c'est
ça va être vraiment
parce
fantastique.
Déjà la Grande Roue, du coup, on voit tout.
Déjà la Grande Roue,
à 25 mètres,
hein.
On voit déjà beaucoup de choses. Donc à 40 mètres,
déjà rien que la tour 17, je crois.
17 mètres, la tour.
La tour à 17 mètres, tu vois déjà pas mal.
C'est ça.
Je l'ai fait. Bon,
après, je l'ai fait une fois, j'ai fermé les yeux, c'est vrai. je me suis toujours dit que je la ferais jamais, je l'ai quand même faite.
Non, puis je pense que c'est pas mal parce que les clients qui connaissent le parc ont envie d'avoir des manèges à sensations, et notamment les enfants, parce que les enfants ont grandi. Donc les enfants qui connaissent le parc depuis 5-6 ans, aujourd'hui, n'ont pas le même âge, donc ils veulent découvrir des attractions plus sensationnelles, et c'est une façon de fidéliser la clientèle.
Oui, pour toute la famille, du coup.
Exactement. Ouais. Et donc, on raconte même, pour pousser un petit peu l'histoire, il va y avoir, du coup, le manège s'appelle le Pteranodon. Donc, en connotation avec le dinosaure qui vole, de type ptérodactyle. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est celui qui a des ailes, là, comme ça. Celui qui a des
ailes. Du coup, j'ai vu une image du Pteranodon.
Oui, t'as vu le logo.
Je me suis renseigné quand même. j'ai quand même regardé sur Google Images. Hein.
Ouais, et on a fait dessiner le logo de l'attraction. Et donc, c'est un personnage qui va s'appeler Max, pour tout vous dire. Et donc, Max va être l'ami de Wino, notre mascotte. Et donc, Wino voyage à dos de Max, qui est le dinosaure. Donc, il chevauche le dinosaure.
C'est bien, c'est vraiment toute une histoire, quoi.
Et voilà, exactement. Donc, il y a vraiment toute une histoire autour de cette nouvelle attraction. Qui, voilà, pour rentrer un petit peu dans les données un peu plus techniques, l'univers décoratif, il va y avoir donc du béton projeté avec un grand bassin. On va simuler des cascades avec, encore une fois, du béton projeté. C'est les entreprises Petroar et Temix qui nous suivent là-dessus. Donc, Temix, c'est philippin. D'ailleurs, les décorations viennent de partir hier, pour tout vous dire, dans le conteneur à Manille. Ça arrive au port du Havre et après, du port du Havre, c'est livré jusqu'au parc. Donc, on va chercher les investissements jusqu'aux Philippines. Et donc, le béton projeté, c'est une entreprise allemande située à Berlin qui viennent avec des techniciens pour étudier et faire toute cette roche projetée dans la zone. Il y en a pour un petit peu moins de 200 000 euros de décoration. Donc, ça chiffre assez vite. Et le génie civil, bien sûr qui est très, très important. Et justement, le génie civil, on l'a fait entièrement avec l'équipe, donc avec mon père et puis avec nos CDI également. Pourquoi on l'a fait nous-mêmes ? Pour des raisons de trésorerie, puisqu'on a fait quelques devis là-dessus. Pour tenir un mât de 40 mètres, il y a des forces d'arrachement et des forces au sol. Donc on a fait appel à un bureau d'études pour forer le sol à 20 mètres, 15 mètres, 7 mètres, pour étudier les sédiments et voir la qualité de béton à utiliser et le niveau de ferraillage dans la dalle. Et une fois qu'on a eu les études, on a fait faire des devis. Et bah, tenez-vous bien, le devis pour réaliser cette dalle et le ferraillage, souder la ferraille entre elles, etc. Il y en avait pour un peu plus de 80 000 euros avec le ciment. 80 000 euros, c'est
rien
énorme.
Que ça, quoi.
Donc, on s'est regardé avec mon père et on s'est dit, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut juste se relever les manches. On a le matériel, on a les bulldozers, on a les pelleteuses. Souder, on sait souder. Hein. Quel forain ne sait pas souder ? Donc finalement on s'est dit allez pourquoi pas, et c'est un challenge, on n'avait jamais fait des fondations pareilles, et donc on a pris le problème en main, on a commencé à creuser, on a posé énormément de questions aux constructeurs et puis au bureau d'études sur lequel on s'appuyait, et on s'est aventuré justement à faire ces fondations nous-mêmes. Il y a eu un peu plus de 17 toupies de béton dans le trou. C'était voilà, un gros trou de plus de 3 mètres justement rempli de béton pour pouvoir ancrer la tour. Et donc la tour a été ancrée il y a quelques mois maintenant. Il reste les autres mâts supérieurs à installer et bien sûr tous les réglages hydrauliques et électriques avant de faire les premiers essais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre force, elle est là. C'est de ne pas avoir peur du travail et de faire nous-mêmes les choses parce qu'on est des grands curieux. Et qu'on se dit, ça ne peut pas être compliqué. Si lui, il y arrive, pourquoi pas nous ?
Oui, tant que tu suis les préconisations du bureau d'études, c'est le plus important, parce que c'est eux qui disent effectivement quel béton.
Exactement.
Et quel...
Il faut avoir des compétences.
Puis après, tu es content parce que tu as fait les choses toi-même, quoi.
Exactement, c'est une fierté. Vraiment, c'est une fierté. Une fois que le manège... En fait, la fierté, elle va être quand on va poser le drapeau tout en haut.
Et qui va l'essayer en premier, ce manège ?
C'est moi, c'est Geoffrey.
Je pense que c'est moi.
C'est toi ?
Ouais. J'aimerais
bien. Je serais trop surexcité. Papa, tu le lances quand je suis dedans, d'accord ?
C'est ça. Mais en fait, c'est comme quand on est gamin. Quand on est gamin, on a des jeux, on a des jouets. Et quand on est adulte, on est des grands enfants. Donc les jouets ont juste évolué. C'est des jouets qui sont un peu plus gros. Mais c'est pareil. On reste des grands enfants et puis on s'amuse avec ça. Bon, on prend les choses très au sérieux, attention. Hein, mais parce qu'on a grandi, on a mûri. Donc l'idée, c'est de partager tout ce bonheur avec les clients et de fidéliser également notre équipe à la cause Babyland. Et la cause Babyland, eh bien, c'est d'offrir des projets de plus en plus grands et puis de les faire soi-même. C'est encore plus drôle. Voilà.
Donc ce manège, d'après ce que j'ai vu, on a les pieds dans le vide, c'est ça?
Exactement.
Et ça tourne.
C'est ça, très vite.
Voilà.
En fait, c'est vraiment c'est un mélange de la tour et du voltigeur, quoi.
C'est un mélange
sauf
de la tour et du voltigeur.
Ouais.
c'est ça.
Voilà. Donc on n'est pas dans une chute libre, mais oui. On est dans une chute assez vertigineuse, hein, puisqu'on est très haut. Et puis
on est quand même à 40 mètres de haut. Hein.
Et puis on est à 40 mètres de haut, donc il y a une vue incroyable, et puis il y a des sensations, superbes. Et puis encore une fois, ce qui est bien, c'est l'accessibilité de ce manège, c'est que les enfants de moins d'un mètre vingt peuvent monter accompagnés. À partir de 1m05, en dessous 1m05, bon, faut pas exagérer, c'est quand même strictement interdit, puisque 1m05, on est autour de 4 ans, 4 ans et demi. Oui. Mais on est sur des accessibilités qui sont assez, assez larges, permettant de profiter de ce manège-là en famille, encore une fois. Et ça suit clairement le modèle économique du parc. Ça signifie que maintenant, les investissements, c'est des attractions destinées à la famille pour ne pas contrarier un des membres de la famille qui, justement, ne peut pas monter pour des raisons de taille, quoi. Donc on s'insère vraiment dans un parc familial à travers ce type de d'investissement. Et normalement, si tout va bien, les premiers essais de cette attraction auront lieu au mois de février pour une ouverture au mois de mars 2022, fin mars 2022. Donc du coup, je vous inviterai tous à venir l'essayer.
Oui, alors moi je ne l'essaierai pas, parce que moi déjà, quand c'est trop haut, les pieds dans le vide comme ça, non, mais je viendrai.
Franchement,
je viendrai
sympa,
filmer.
Promis,
je me filmerai dedans.
Promis, on te fera pas la blague d'arrêter le manège quand t'es tout en haut.
Par contre, la grande roue, je l'ai pas faite encore, mais je ferai la grande roue, c'est plus rassurant pour moi.
Ouais, la grande roue, c'est vrai que c'est beaucoup plus tranquille que ce type de manège. Mais c'est bien, il en faut pour tous les goûts. Hein,
mais bien sûr. Et puis effectivement, t'as des adultes qui veulent un peu plus de sensations fortes.
C'est ça.
Surtout des adolescents. Faire avec leurs enfants.
Surtout des adolescents qui aujourd'hui veulent tester des manèges à sensations. Hein. Donc le problème serait de pas répondre à cette demande qui est quand même très importante. Les grands enfants, j'entends par là 14 ans, 13 ans, allez les pré-ados viennent dans les parcs d'attractions pour être à la recherche de sensations. Aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire que Babyland offre des grosses sensations aux adolescents, mais on tend justement à pouvoir répondre à cette demande-là. Il faut nous laisser encore quelques années, puisqu'on a encore un projet qui certainement verra le jour, je dirais peut-être en 2023 ou 2024, c'est ce fameux train de la mine, où là on proposerait le premier coaster entièrement thématisé, et là on est clairement sur un public de jeunes adolescents. Donc à terme, bien sûr qu'on pourra offrir ce type de sensations aux jeunes. Et puis voilà, l'idée, encore une fois, c'est de devenir, pourquoi pas, une même envergure que le jardin d'acclimatation, mais en Essonne. Ça serait le jardin d'acclimatation de l'Essonne, sous un nouveau nom, comme Winoland. Hein, ça serait pas mal de peut-être changer le nom du parc à terme. Babyland, c'est encore une connotation un peu enfantine.
Babyland,
après, il y a Babyland
Amiland.
Tu ajoutes l'Amiland derrière, bon.
Alors ça peut nous porter préjudice, parce que justement, il y a une
connotation
de bébé. Donc c'est un petit peu au cœur des débats. Est-ce qu'on va changer le nom ou pas? Winoland pourrait être un nom un peu sympa, puisque Wino, c'est le nom de la mascotte. Ouais. Winoland, c'est le mot
Wino qui est juste là. Hein.
Qui est juste là, d'ailleurs, je l'ai vu quand je suis rentré dans le studio, c'est magnifique. et c'est comme Nigloland, finalement. Niglo, c'est le nom de la mascotte.
Oui.
Un hérisson, Nigloland, voilà, on suivrait un peu ce modèle-là, pourquoi pas. Donc, bon, c'est pas d'actualité pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'est cette grande tour qui va voir le jour. Mais on en discute. Finalement, on essaye d'avoir toujours un train d'avance pour ne pas se faire... pour anticiper, tout simplement. Hein. C'est des qualités qu'un entrepreneur doit avoir, ça, anticiper les choses. Donc, on en parle. Voilà. Peut-être que ça arrivera dans les prochaines années. Ça sera la surprise. Il faut des surprises chaque année, de toute façon.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut en garder pour les années suivantes.
C'est ça, exactement. Voilà, donc...
des beaux projets.
Je vous inviterai vraiment à l'essayer, cette tour, qui est magnifique. Je pense qu'elle va te décoiffer, Théo.
Ouais. Attends, je crois qu'on peut regarder sur YouTube, il y a des vidéos.
Exactement.
Si on cherche Swing Tower, ou alors le nom du manège, là-bas, c'est Flyrosaurus. Flyrosaurus.
Ouais. Faut taper Flyrosaurus.
Dimitri va chercher, voilà. Je le connais. Hein.
Ça, c'est le nom du parc du manège, justement, en Autriche. Mais ils nous ont accueillis les bras ouverts. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais bon, tu copies quand même un projet. C'est peut-être. Et en fait, dans ce secteur d'activité qui est le secteur donc, des parcs d'attractions et du loisir, il n'y a pas vraiment de concurrence. En fait, il y a plus des confrères. C'est-à-dire que on fidélise une clientèle, bien sûr, mais je veux dire, les clients, ils ont envie de découvrir plusieurs loisirs. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un grand partenariat et une sorte de lobbying entre les fournisseurs. C'est beaucoup plus intéressant que de critiquer ce que fait l'un ou l'autre. Et donc c'est dans ce sens-là où, une fois par an, déjà, on se retrouve avec tous les propriétaires de parcs dans un salon international. Et puis le soir, on dîne tous ensemble à la même table pour parler de la saison, pour échanger les bons et les mauvais fournisseurs. C'est ce que j'entends par là, un lobbying. Donc c'est très intéressant. Donc encore une fois, en Autriche, quand on a été voir ce projet et qu'on a dit au patron, Monsieur Wagner, que je salue au passage, il n'a pas du tout eu d'animosité envers notre volonté de copier entre guillemets son manège. Au contraire, il était très fier puisque lui, il l'a pensé et imaginé à sa façon. Donc de voir un parc français qui se déplace jusqu'en Autriche pour analyser ce qui finalement a été son bébé pendant un certain temps, c'est une fierté, quoi.